Devoir de Léa Égolan, très curieux à l'encontre des autres devoirs, parce que tu fais une réflexion sur la problématique, tu comprends à peu près les enjeux politiques, tu as bien compris qu'il fallait faire référence à cette possibilité qu'a la mémoire de rassembler, d'apaiser, mais aussi de diviser, hein, et donc notamment la mémoire des conflits. Par contre, tu as un petit peu plus de mal avec l'histoire. Et bon. Mais surtout, ce que tu ne fais pas, c'est que tu n'apportes pas la démonstration, l'argumentation de ce que tu avances. Et quand tu le fais, tu te trompes. C'est-à-dire que bah, les connaissances ne sont pas tout à fait maîtrisées. Et je trouve ça très curieux. Alors, allons-y. Tu dis que cette citation, tu l'utilises intelligemment, hein, quand même, celle de Pierre Nora. Donc, voilà, tu as bien compris que l'exercice d'avant vous menait un peu sur la voie. Met en lumière les enjeux politiques, hein, rien que tu remettes le politique ici, de ces deux facteurs, ce n'est pas des facteurs. L'histoire, c'est la science, et donc c'est une science, hein, et la mémoire, c'est une faculté de l'esprit, donc ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent être associées. Hein. Alors, tu as une longue explication sur la mémoire, bon, si tu veux, et puis après, tu dis que les États tentent d'instaurer une mémoire collective afin d'unir la population, oui, bien sûr, hein. Donc ça c'est bien, c'est une politique qui rentre en œuvre, et il doit lutter contre les ferments de division que porte la mémoire, hein. Et l'histoire vient expliquer par là-dessus. Si l'histoire divise ou rassemble, souvent, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière, donc elle n'est plus tout à fait la discipline objective qu'elle veut être, hein. Donc voilà. Se pose alors la question suivante, quels sont les enjeux politiques de l'histoire et de la mémoire? On s'est mal dit, mais voilà. Afin d'y répondre, il y aura deux grandes parties. L'affirmation de la citation de Pierre Nora, donc ici, avec comme exemple la guerre d'Algérie. Donc ici, la mémoire divise. Mais en fait, tu oublies que la guerre d'Algérie, elle peut rassembler aussi, hein, par exemple en Algérie, hein, quitte à ne pas trop éclaircir historiquement le sujet. Puis, dans une seconde partie, l'opposition à la citation avec l'appui des deux guerres mondiales, donc les deux guerres mondiales rapprochent, ben pas toujours, hein, puisque il y a eu donc des moments de division au sujet de la Première Guerre mondiale, notamment dans l'entre-deux-guerres, par exemple, ou la Fritz Fischer. Donc, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, après, tu me mets des petites notes, là, 1, 2, 3, alors c'est un peu maladroit, mais bon, au moins, ça montre que tu as compris que la dissertation, c'est un exercice de démonstration. Donc, voilà, donc prochaine fois, essaye d'intégrer quand même ces petits mots. Mais on commence rarement par tout d'abord, hein, donc ça, faut éviter. Alors, lors de la guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, il vaut mieux commencer ta partie par l'idée principale. Hein, et donc, pour toi, ça aurait été la guerre d'Algérie, et ça aurait été intéressant de le voir, hein, la guerre d'Algérie connaît une mémoire qui divise, hein, donc ici, voilà. Comme tu dis qu'elle a énormément divisé, donc je te dis où, hein, dans quel pays, parce que beaucoup plus en France qu'en Algérie, puisqu'en Algérie, il n'y a pas possibilité de faire émerger d'autres mémoires que celle du FLN, de cette mémoire guerrière. Hein. Donc il faut que tu considères les deux échelles, hein, l'échelle nationale, mais et à l'échelle internationale, donc ça divise France et Algérie. Hein, donc quelquefois ça rapproche, mais surtout ça divise. Il y a différents groupes mémoriaux, alors où? Quand, ils sont très nombreux, mais lesquels? Ils sont très opposés. Donc c'est là que j'aurais voulu entendre, ben voilà, la mémoire des pieds noirs, la mémoire des soldats, des appelés, des harkis, voilà. Et donc bon, ben je vois pas. Une envie d'indépendance, donc tu pars sur l'explication, je sais pas, ce qui n'est pas tout à fait nécessaire. Hein. Les Algériens, alors après tu focalises sur cette histoire d'Algériens et de harkis. Des discours haineux, hein, donc voilà, mais on ne sait pas, un digérant algérien, on ne sait pas quand, qu'on parle harkis à des collaborateurs, ils ont toujours été assimilés à des collaborateurs, et c'est ce que rappelle quand même, presque 40 ans après les faits, Bouteflika, quand président donc Abdelaziz Bouteflika, quand il fait un voyage en France en 2000. Après cette guerre, les harkis n'avaient toujours pas été considérés par la France comme des anciens combattants, mais à la suite de nombreuses demandes, les harkis obtiennent gain de cause. Bon, ben, moi, je te demande quel est le sujet, là. Quel est l'enjeu politique? Pourquoi est-ce qu'on leur donne gain de cause? Parce qu'il y avait un ferment de division possible avec cette demande de reconnaissance de la part des harkis. Hein. Ça se fait, donc, ici, à la fin du XXe siècle, et puis une accélération des mémoires se produit donc quand on rentre dans le XXIe siècle. Et les enfants des harkis demandent donc cette reconnaissance, parce qu'ils se sentent relégués. Donc, quel est l'objet politique, l'enjeu? Bah, c'est d'éviter la fracturation et la division pour le pouvoir français. Donc, ils obtiennent gain de cause, mais comment? Donc tu montres une journée accordée, celle du 25 septembre, et puis la loi de 2023 de reconnaissance des souffrances endurées, ça c'est Emmanuel Macron. Bah toi, ça tu fais pas. Alors qu'est-ce que tu me dis là? La France ne reconnaissait pas être en partie responsable de la guerre, mais il ne s'agit pas de ça. Hein. Donc ici, ce que la France ne reconnaît pas, c'est l'utilisation de la torture, par exemple, ou l'exécution de membres du FLN. C'est, voilà. Et elle le fait petit à petit, de façon parcellaire, là, c'est ce que vient de faire Emmanuel Macron le 1er novembre, là, avec la reconnaissance de l'exécution du dirigeant FLN, l'Arbi Ben Mirdi. Voilà. Cette déclaration, voilà, et Emmanuel Macron déclare que la France est responsable du conflit. Mais il n'a jamais dit ça. Hein. Donc, toi, c'est pas rigoureux, quoi, ton histoire, là. Alors, après, tu pars sur les guerres mondiales. Donc, moi, je trouve qu'on peut aussi bien montrer que ça divise que ça apaise. Hein. Alors, des guerres courtes, c'est relatif. Hein. Donc, ici, les mémoires. La mémoire de ces guerres unifie le peuple français. Mais enfin, bon sang. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Hein. Donc ici, je ne sais pas si tu te souviens de ce que je t'ai montré comme vidéo au début de ce cours, là, où on voyait donc des descendants de juifs déportés demander une reconnaissance. Reconnaissance de quoi? De responsabilité de l'État dans leur déportation. Voilà, c'était quand même assez violent, hein, donc, comme revendication. Donc, je ne sais pas. Voilà. Le monde politique a utilisé la mémoire pour diriger. La propagande fonctionne, car la mémoire est collective. Mais qu'est-ce qu'elle est? Puis après, tu pars sur la rage envers les Allemands, la rage, de vengeance, d'accord, mais il a existé quand? Il a existé essentiellement après la Première Guerre mondiale, hein, il s'est manifesté dans le traité de Versailles, toi, tu dis rien là-dessus, hein, par contre, tu oublies complètement le rapprochement franco-allemand qui s'opère dès les années 50, hein, avant même De Gaulle. Alors, dans l'exemple des conflits mondiaux, l'histoire divise. Alors, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que certains historiens, mais le sont-ils vraiment, hein, donc ont des thèses qui sont quand même engagées politiquement. Et c'était le cas de Fritz Fischer, qui voulait faire oublier un petit peu son passé nazi, et qui montrait qu'il donnait des gages en disant que l'Allemagne avait une propension à l'agressivité, l'expansion, etc. Et ça tombe très mal. Il heurte le pouvoir politique et l'opinion politique allemande, parce que dans les années 60, 61, l'Allemagne se reconstruit, c'est le miracle économique, et donc l'Allemagne estime ne pas avoir à donner de gages supplémentaires. Il y a eu le procès de Nuremberg, hein, et donc elle dit qu'elle a tourné la page. Donc ça l'embête, hein, donc qu'on rappelle ça. Et donc le pouvoir politique n'est pas très content, hein, et donc annule la tournée de Fischer, il ne donne pas de visa pour qu'elle aille aux États-Unis. Et inversement, Christopher Clark, en 2012, quand il écrit Les Somnambules et qu'il dégage un peu l'Allemagne de cette responsabilité, il est plutôt bien vu. 12 rééditions en Allemagne, parce que les Allemands, réunifiés, hein, donc après la guerre froide, se repensent comme puissance et se sentent libérés par cette thèse. Ça, je vois rien là-dedans, tu vois. Donc, après, tu dis quoi? La haine allemande après sa défaite contre la France en 1878. Mais de quoi parles-tu? Si c'est la guerre franco-prussienne de 1870, je te signale que c'est l'Allemagne qui a gagné. Hein. Et tu me parles d'empires rivaux. Quels empires rivaux? J'espère que tu ne penses pas que la France... des alliances et ententes entre les pays... Je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire. Je te signale que au moment de la Première Guerre mondiale, la France est une république. Enfin, tu le sais quand même. Hein. Alors après, tu es reparti sur un accord. Et puis après, ils doivent malgré tout subir une exclusion de la part des organisations comme l'UE. L'UE ? Exclue l'UE ? Mais enfin, sais-tu que l'Allemagne de l'Ouest est un des membres fondateurs de la construction européenne dès 1957 ? Enfin, je comprends pas là. Et donc, d'autres historiens, français ou autres, ont reconnu la responsabilité de la France dans la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu confonds complètement avec la reconnaissance de la responsabilité d'une contribution à la déportation des Juifs de France. Donc, c'est l'Allemagne qui est responsable de la Seconde Guerre mondiale. Bon, tu dis que les historiens ont parfois des difficultés à séparer la mémoire et l'histoire. Moi, je pense que c'est plutôt toi, là, qui a du mal à séparer, que tu confonds. Donc, je suis pas d'accord, voilà. Conclusion, tu repars sur la justice. Alors, sur le début, ça va, hein, donc ils rapprochent et unissent, d'accord, mais tu n'as pas fait la démonstration. Tu repars sur la justice. Bon, je te demande où est le sujet. Puis alors, évidemment, là, voilà, Israël et Palestine. D'accord, le conflit est ancien. Mais justice extérieure, mais qui jugerait quoi là? Pour l'instant, il ne s'agit pas de justice. Hein. On est encore, on n'est ni dans l'histoire ni dans la mémoire, sauf, attention, le 7 octobre 2023, ce qui s'est rejoué, c'est la mémoire des pogroms contre les Juifs de la Seconde Guerre mondiale et avant, pour les Israéliens. Et ce qui s'est rejoué, et ce qui se rejoue en ce moment pour les Palestiniens, c'est la mémoire de la Nakba de 1948, hein, de ce grand exode pour les Palestiniens. Mais ça, tu vois, tu n'as pas la connaissance, donc tu ne peux pas le faire. Alors, globalement, bah, ça nous donne quoi? Eh ben, je vais trancher la poire en deux. Hein, ça nous donne 10, pas plus. Et je ne comprends pas, Léa, comment tu en arrives à ce point à négliger les connaissances et l'argumentation. Alors que finalement, le raisonnement, bah, tu étais sur la voie. Donc, il faut que tu fasses un effort, ici, sur l'appropriation des connaissances, je pense.